Suivi.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, cette semaine je vous propose d'aller à la rencontre d'un peintre français d'origine tchèque, Miloslav Mocha. Dans ce rendez-vous de Culture sans frontières, vous aurez l'occasion de découvrir la première partie de l'entretien que j'ai réalisé avec ce personnage à part entière. Sa naissance en 1942 dans la région des Sudètes a eu quelque chose de déterminant dans le processus de maturation du jeune homme dans les années 1960, par le destin historique de cette région après-guerre, mais aussi par les personnalités de la culture tchèque que Mocha y a rencontrées alors. J'ai rencontré Miloslav Mocha à l'occasion de l'inauguration de son exposition à la galerie Kaj de Kaj à Prague, où une partie de ses œuvres sont à voir jusqu'au 7 décembre. Monsieur Miloslav Mocha, bonjour. Vous venez de publier un récit autobiographique tchèque qui s'appelle Le Petit Livre, Malá kniha, aux éditions Dauphin, il y a quelques mois. Et dès la première page, en fait, vous expliquez pourquoi vous avez publié ce livre, pourquoi vous l'avez écrit en tout cas. Est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu ce que vous dites en introduction de votre livre ?
Cet texte était destiné au départ pour une monographie sur la peinture, sur la mienne. Et d'habitude, il y a des historiens d'art, les critiques d'art, qui écrivent cette chose-là. Et quand l'artiste ou le peintre, comme je suis, est mort, tout est tout content, parce qu'on rassemble quelques documents et on fait un roman. Alors moi, étant vivant, je me suis dit, je vais le faire tout seul, avec ce que je sais et que personne ne va savoir après. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire ce texte pour ce grand livre. Et quand cette monographie est sortie, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de monde qui ont lu le texte, qui se prêtaient le livre parce que le livre était cher. Et je me suis dit, au bout d'un certain temps, que ça peut être intéressant, si ça intéresse des gens, de faire un petit livre avec d'autres textes que j'ai fait depuis les années 70. Et puis le Dauphin, quand il a vu le texte, il m'a proposé de l'éditer. Et ça promet à peu près 15 ans. Donc au bout de 15 ans, on a fini par le faire.
Si je comprends bien, vous n'aviez pas envie qu'on brode sur votre parcours, sur votre vie et vous...
Oui, mais vous savez très bien qu'on fait des mythes, chacun le sien. Eh bien, moi, je préfère faire savoir quel est le mien, parce que je le sais mieux que celui qui va en fabriquer un.
On va revenir un petit peu en arrière. Donc, vous êtes né le 25 mars 1942, c'est ce que vous marquez, au pied des monts métallifères, Krušné hory en tchèque, à Dolní Litvínov. Puisque c'est la région où vous êtes né, est-ce que c'est une région qui vous touche toujours aujourd'hui ? Est-ce que c'est, par exemple, aussi une région qui vous inspire ?
Ben, c'est une région qui était totalement abandonnée, comme on sait. Après 1945, les Allemands étaient déménagés en Allemagne. La population donc, a diminué très fortement. Il y avait des gens qui venaient travailler, bien payés, et avec l'intention de ne jamais s'installer là. Ce qui fait que cette région a perdu une identité, c'est-à-dire que le caractère de cette montagne était donné surtout par les Allemands. Puis ils étaient pris là, donc la montagne était abandonnée. Moi, j'ai vécu comme un petit garçon dans cette région. J'ai des souvenirs qu'on peut pas raconter parce que c'est des sentiments très bizarres de maisons. J'ai encore vu des maisons à la campagne, dans la montagne, où c'était ouvert, on entrait, et sur la table, il y avait une nappe avec des tasses de café, et bien c'était abandonné. Il y avait des chapelles qui étaient totalement détruites par des, bah, par des gosses comme moi. On a démonté des orgues pour avoir des sifflettes. Et puis des cimetières qui étaient abandonnés. Enfin, c'était très curieux que, bon, déjà pour les enfants, et comme j'y pense maintenant, à cette atmosphère, c'est comme un monde qui n'existe plus. Je ne peux pas dire que ça m'inspire, mais je crois que ça a formé une certaine sensibilité, en tout cas une part de ma sensibilité.
Quand vous disiez que vous aviez ces images de maisons où, en fait, on entrait, il y avait une table et encore des tasses de café, c'est comme si, en fait, les gens venaient juste de partir. C'était dans ce sens-là que vous vouliez dire, comme s'il y avait un moment dans le temps qui s'était arrêté.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'était, on dirait maintenant, surréaliste. C'est-à-dire, vous voyez un intérieur qui est soigné. On voit qu'il y avait des gens qui ont vécu. Et il y a de la poussière, il y a des pailles, il y a la fenêtre qui est cassée, mais il y a encore une nappe et un tasse de, qui était rempli par les cafés, mais il n'y a plus rien, quoi, c'est tout.
Vous dites dans votre livre aussi que vous avez découvert donc l'art un peu par hasard, quand vous reveniez en fait, d'une permission de votre service, du service militaire. Est-ce que vous pourriez un petit peu me rappeler, rappeler aux auditeurs exactement comment ça s'est passé ?
Non, c'est pas du tout aussi simple. C'est que j'ai dessiné quand j'étais petit, j'ai peint, mais j'ai pas pensé que ça va être quelque chose que je vais poursuivre. Par contre, j'ai pensé que je vais être écrivain. Mais quand j'ai vu ce tableau, enfin cette reproduction de tableau de Van Gogh, ben, j'étais totalement ébloui et je pensais qu'avec ce moyen-là, donc la peinture, on peut exprimer d'un seul coup ce que dans la littérature on doit développer, on doit expliquer. Peut-être la poésie peut fonctionner comme ça, mais j'ai jamais pu écrire un vers, même comme on a 15 ans et on pense qu'on aime.
Donc pour vous, la peinture, ça a un côté synthétique?
Oui, si on veut, c'est-à-dire que ça se regarde d'un coup, ça se fait dans le temps, mais ça se consomme, si on veut, instantanément. C'est-à-dire qu'on est devant un événement. Et il faut que celui qui est devant le tableau soit surpris. Et on peut être surpris comme ça comme spectateur si celui qui l'a fait est surpris lui-même. Et c'est ça ce qui m'intéresse.
Hey Jude, so daddy plach, ci pari a susi zebo, víc nemá jen malý poslední dát, znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hey Jude, že má tě rád, to se v písních tak snadno zpívá. Na hrubu všech písní, kde končí rým, tam prý leží stín, který nám zbývá. Svět je krásný, svět je zlej, hej Jude, věř k něj, do vínku nám dál víc ran a boulí.
J'ai été surprise en lisant aussi votre livre. Vous êtes entouré, alors après, dans les années, donc je pense à peu près dans les années 60, si j'ai bien suivi la chronologie, vous êtes entouré de personnes, de personnalités de la culture tchèque très importantes. Enfin, vous côtoyez Jan Zabrana, Ivan Divich et d'autres personnes. Vous avez connu, en gros, des personnalités tchèques extrêmement importantes pour l'art tchèque.
Oui, mais ça, c'est grâce au communisme, parce que quand on sait, tout le monde sait maintenant que les intellectuels de cet calibre-là était très souvent envoyé dans les usines, travaillait dans les mines, sur les ponts, enfin la maçonnerie. Et il se trouvait que, étant donné que la région où j'étais né, où j'ai vécu, était une région dure, donc les persona non grata étaient envoyés là. Et c'était comme ça le cas de mon maître Joseph Jedlička, qui était chuté dans cette région avec sa femme comme médecin. Et puis autour de cette famille se réunissaient des amis, comme Jivich, comme Zabrana et d'autres. Et bien, c'est comme ça que j'avais mon éducation intellectuelle et artistique. C'était vraiment grâce au communisme. C'est paradoxal, mais c'est comme ça.
C'est paradoxal. Et en fait, du coup, je suppose que, puisque vous avez donc décidé de partir en 1969 en France, est-ce que ça a été dur aussi de quitter ce monde-là, en dehors du fait que vous aviez votre vie ici Vous dites que vous avez que votre départ a été très dur. Vous avez quitté donc la Tchécoslovaquie en 1969 par peur des persécutions et sans grand enthousiasme. C'était aussi parce que vous perdiez aussi toutes ces personnes qui étaient autour de vous, je suppose.
En printemps 68, nous avons fait la politique pendant 3 mois. Il y avait plus de censure, donc on pouvait écrire dans les journaux librement. Évidemment, Jedlička, qui était le chef de ce groupe à Litvinov, n'a pas tardé à se prononcer. Et puis, quand les armées de Pacte de Varsovie arrivaient en Tchécoslovaquie, il y avait des recommandations pour certaines personnes partir parce qu'on ne savait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir la guerre ou est-ce qu'on va enfermer les gens ou est-ce qu'on va faire la persécution globale ou non. Bon, je suis parti, Jedlička est parti, Jivich a resté, il y avait quelques personnes qui ont resté, et puis je pensais que je vais retourner en Tchécoslovaquie, je vais revenir, et j'attendais ce qui se passe. Il ne se passait pas grand-chose, donc je suis revenu dans le pays au début de l'année de 69, enfin à Pâques. Et c'est là le moment où ça commençait à être dur. Donc je suis reparti en sachant que je pars pour au moins 5-10 ans. Enfin, je suis parti pour 23 ans.
Pour finir, j'aimerais vous lire un extrait de ses écrits qui révèle un peu de son rapport à la peinture et au monde qui l'entoure. Car si Miloslav Mocha parle peu de ses tableaux, car il estime que les mots sont inutiles, ses réflexions et ses observations en disent plus que la simple description d'une toile. Par une soirée pluvieuse, je me promenais à la périphérie de la ville. Dans la couronne d'un jeune châtaignier, je vis scintiller des cercles concentriques. Un lampadaire était allumé derrière l'arbre et la lumière était captée par les gouttes de pluie tombées sur les branches. Comme tout écolier, je connaissais et pouvais expliquer ce phénomène physique, mais je ne pouvais en cet instant m'empêcher d'éprouver une sensation d'oracle. La géométrie est la naissance du monde, et à travers elle, nous pouvons en comprendre la conception. Je ne vois pas le paysage comme un peintre, je sens la nature, je vois le détail. Voilà, c'est la fin de Culture sans frontières. Vous retrouverez la deuxième partie de cet entretien dès la semaine prochaine. Et bien sûr, vous pouvez le relire et le réécouter à l'envi sur notre site internet www.radio.cz. Merci à toute l'équipe de production pour la préparation de cette émission et la mise en onde. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Bon vent et ahoy.